Le gouvernement confirme la prolongation du chômage partiel pour les mois de novembre et de décembre. Cela va donner un peu d'air aux entreprises touchées, explique Mimsy Délé, présidente du MEDEF. Les élus de la province Nord ont adopté ce matin, lors de leur assemblée plénière, la délibération modificative numéro 4 du budget, qui acte notamment une baisse des recettes de 6 milliards de francs par rapport aux prévisions. Jean-Pierre Cabart, nouveau président de la CAFAT, il a été élu aujourd'hui à la tête de la caisse au nom du Collège des salariés. Le festif avec notamment le salon BAT Expo qui devient cette année le salon BAT Expo et plus, un événement incontournable pour les acteurs du bâtiment et de l'artisanat, même en cette période de crise économique. Et puis on terminera ce journal avec le programme sportif du week-end. Marseille-Paris et Barça-Réal en football, Toulouse-Toulon en rugby ou encore les Calédoniens Antoine Olivier et Phoebe Rocher au championnat de France de kitesurf. Bonsoir à tous et bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans le Pacifique. Mais avant de développer ces titres, Sonia Backès attend de l'État une méthode et un calendrier pour la reprise des discussions et des aides pour la reconstruction. C'est ce qu'elle a déclaré ce midi. La présidente de la province sud et chef de file des loyalistes était l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Jean-François Baudin.
Sonia Backès a d'abord été interrogée sur la situation budgétaire de la province sud qui a été examinée hier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. La province est confrontée à une baisse colossale de 31% de ses recettes qui sont revenues au niveau de 2004. Dans ce contexte, elle attend une aide de l'État qui, selon la présidente de la province, porte une double responsabilité.
Moi, je considère, et c'était partagé par l'Assemblée hier, que l'État porte une responsabilité, non pas dans ce qui s'est passé le 13 mai, c'est clairement la responsabilité de la CCAT, mais l'État porte une double responsabilité. La responsabilité de ne pas avoir mis assez de forces de l'ordre le 13 mai, ce qui fait que là où on aurait peut-être eu que quelques dizaines de millions de dégâts, on a eu 2 milliards de dégâts parce qu'il n'y avait pas les forces en face pour combattre les actions violentes de la CCAT. Et d'autre part, une responsabilité financière parce que nous avons décidé par trois fois de rester un territoire de la République et qu'à ce titre, l'État ne peut pas laisser ce territoire de la République s'effondrer économiquement comme il est en train de s'effondrer.
Faute d'aide suffisante de l'État pour compenser ses pertes fiscales, la province a 18 milliards à trouver pour boucler son budget 2025 et elle doit imaginer des coupes drastiques dans ses aides et ses services publics.
Ça veut dire que la décision qu'on devrait prendre le 5 décembre prochain à l'Assemblée de la province sud pour arriver à rentrer dans les clous, c'est des décisions impossibles. Fermer les dispensaires, arrêter toutes les bourses scolaires, fermer tous les parcs provinciaux, arrêter tous les renouvellements de postes, donc des gens qui partent à la retraite. Ça veut dire que petit à petit, en fait, on vide toutes les actions de la province, mettre des classes à 30 élèves ou à plus de 30 élèves parfois. Ça veut dire qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Arrêter tous les emplois d'insertion, arrêter toutes les subventions aux associations, pas seulement sociales, mais culturelles, jeunesse. En fait, c'est l'effondrement de la Nouvelle-Calédonie.
Ouais. Et à cela s'ajoute une baisse de l'investissement de 75%, soit 9 milliards en moins pour les entreprises. Ce serait la tiers mondialisation, reconnaît la présidente de la province, qui pointe du doigt la responsabilité de Bercy et de ces petits hommes gris qui ont pris le pouvoir. Elle lance donc un cri d'alerte qui concerne, dit-elle, toutes les collectivités calédoniennes. Interrogée sur la venue prochaine des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Sonia Backès précise qu'elle attend surtout une méthode et un calendrier clair pour la reprise des discussions politiques. Pour elle, on est confronté à deux problèmes. L'État n'a rien fait depuis 5 mois et il y a une absence de volonté et de sincérité de la part de l'Union calédonienne qui est tenue par la CCAT.
On a un retour 2 ans et demi en arrière. Quand je lis les communiqués de presse de l'Union calédonienne, des uns et des autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on veut parler qu'avec l'État, donc c'est, excusez-moi, mais ça veut dire bilatéral. Je vous fais un retour en arrière de 2 ans quand Gérald Darmanin a commencé à s'occuper du dossier, petit un. Et petit deux, on veut parler que de la trajectoire de souveraineté. Donc en gros, retour 2 ans en arrière, on veut parler que de l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union calédonienne, qui a organisé la CCAT, a fait ça pourquoi? Avec quel message? Avec un message qui était rentrer chez vous, un message raciste anti-blanc. Donc le message c'est, on voulait vous faire dégager, là maintenant on ne veut pas parler avec vous, et en plus on veut bien parler avec l'État, mais que du projet qui concerne la moitié ou moins de la moitié de la population. Le reste, ça n'existe pas. Mais sur ce territoire, il y a 2 légitimités, il y a 2 points de vue qui s'opposent, il y a 2 visions de la société différentes, et ni les uns ni les autres n'ont envie de l'abandonner.
Sonia Backès souligne qu'il y a une vraie différence entre l'UC et l'UNI.
Il y a une vraie différence entre la vision qu'a aujourd'hui l'UNI, qui reste indépendantiste, personne ne leur enlèvera leurs convictions, mais qui disent « Ok, on veut bien parler avec tout le monde parce qu'effectivement, il y a une autre vision de la société et qu'on est obligé de partager avec tout le monde. » Et l'UC qui dit « Non, non, ça, ça n'existe pas. Il y a notre projet et puis c'est tout. Ben, » ça ne peut pas exister comme ça. Ça s'appelle du séparatisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on veut couper de la République et qu'on considère que tout le reste, ça n'existe pas, c'est d'abord du communautarisme, ensuite du séparatisme.
Concernant le report des élections provinciales, la chef de file des loyalistes rappelle qu'elle ne le demandait pas, mais elle constate que les conditions n'étaient pas réunies pour les organiser avant le 15 décembre, notamment parce que le corps électoral n'est pas dégelé. Dans ce contexte, un accord global est-il possible ?
Les indépendantistes globalement disent « il faut un accord global sur tous les sujets ». Alors moi je veux bien, mais pour ça il faut peut-être se mettre autour de la table, parce que c'est un peu contradictoire de dire « on veut un accord global mais on ne veut pas parler avec les autres ». Je ne sais pas très bien comment on fait, si ce n'est à être de mauvaise foi, et à une fois de plus, comme ils l'ont fait pendant 2 ans et demi avec Gérald Darmanin, gagner du temps pour à la fin espérer que les élections se fassent avec un corps électoral gelé, de force, parce qu'on n'aura plus d'autre choix. C'est ça leur objectif. Enfin, il faut dire les choses à un moment donné. Donc, moi, je dis quoi ? Je dis, ben, écoutez, mettons-nous autour de la table. On est tous de bonne volonté. On avait travaillé avec les uns et les autres avant le 13 mai pour essayer de trouver un accord global. Remettons ça sur la table pour voir si tout le monde est encore en phase pour travailler de ces différents sujets-là. Et puis, ben, à un moment donné, il faudra qu'on se donne une échéance. Il faudra qu'on se dise, ben, si on n'est pas capable de tout régler, ben, réglons dans un premier temps, dans l'échéance qui nous est fixée, ce qu'on est capable de régler. Voilà, ça s'appelle du réalisme. J'espère qu'on sera capable de faire mieux que ça. Mais vous savez quoi ? Si on arrive à régler un minimum de choses qui nous permettent d'organiser des élections dans de bonnes conditions en novembre et d'avoir des élus légitimes après, ben on pourra rediscuter du reste avec les élus qui auront été réélus.
Sonia Baquès relève aussi que depuis le 13 mai, la donne a changé. Avant la reprise des discussions, l'État doit, selon elle, faire un exercice de clarification. Ce serait notamment la mission de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet.
Si on veut avoir un peu d'efficacité quand ces hautes personnalités viendront, il faut avoir débroussé le chemin, savoir sur quoi on est capable de parler et qu'est-ce qui pose problème, de manière à ce que quand ils arrivent ici, on soit peut-être en capacité de rentrer dans le dur et qu'on ne reperde pas, parce que là, ils vont venir. Mais alors là, déjà, il va falloir se poser la question de bilatéral, trilatéral, demander à lui c'est qui est là, parce que qui c'est qui est légitime, est-ce que là, c'est ça. Vous savez quoi ? On y a passé 2 ans et demi à faire ça. Ça suffit. Ça suffit, soyons pragmatiques, rentrons dans le dur, là. C'est quoi les équilibres sur le corps électoral ? Les équilibres possibles ? C'est quoi les équilibres possibles sur l'organisation institutionnelle ? Sur l'organisation avec la France ? Sur l'organisation interne ? Sur le droit à l'autodétermination ? C'est quoi les équilibres ? Qui est d'accord sur ça ? Qui n'est pas d'accord ? Qu'est-ce qui reste comme espace ? Est-ce qu'on est capable de le régler ou pas ? Et puis après, organisons nos désaccords. C'est-à-dire qu'on ne va pas être d'accord à la fin. Ils veulent l'indépendance, on ne la veut pas. Comment on fait pour organiser la Nouvelle-Calédonie ? De manière à ce que chacun soit bien dans le projet de société qu'il défend. Ben, c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à faire, mais il faut se poser à un moment donné.
Des discussions difficiles, en l'absence notamment d'interlocuteurs clairement identifiés, et il lui a été demandé ce qu'elle attend de la part de l'État.
J'attends un calendrier, une méthode et un positionnement. Parce que l'État n'est pas seulement... Enfin, il y a un moment où l'État n'est pas seulement un arbitre entre deux camps. C'est fini, ça. On a aujourd'hui des puissances étrangères qui attaquent la France via la Nouvelle-Calédonie. La France, elle a un rôle à jouer. Elle n'est pas simplement arbitre. La France, elle a aujourd'hui un territoire, une partie d'elle-même, qui a décidé de rester française, qu'elle a besoin de défendre. La France, elle doit se positionner là-dessus. C'est la moindre des choses. Donc, la France, elle doit dire ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, c'est quoi sa position à elle. Elle doit organiser une méthode et un calendrier pour que les discussions se fassent et qu'on arrive à trouver une solution. Et elle doit, en parallèle, reconstruire.
Une interview de Sonia Baquès qui sera rediffusée dimanche soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour. Comprenez-vous que la province sud soit contrainte d'envisager des coupes drastiques dans les aides sociales et dans les services publics pour élaborer son budget ? Si vous le comprenez, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. Vous êtes très partagé sur la proposition du gouvernement d'autoriser de nouveau l'importation des produits en matière plastique et notamment des barquettes. 50% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à cette importation des produits en matière plastique. Ils sont aussi 50% à dire qu'ils y sont opposés. Le gouvernement confirme la prolongation du dispositif de chômage partiel pour les mois de novembre et de décembre. Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a annoncé le financement du chômage partiel pour 2 mois supplémentaires. Cela va donner un peu d'air aux entreprises touchées dans leurs activités. Mimsy Délé, la présidente du MEDEF.
C'est une très bonne chose, ça n'était pas gagné. Nous avons beaucoup argumenté pour maintenir ce dispositif au moins jusqu'à fin décembre. Nous espérons sa prolongation jusqu'à mi-2025. Mais évidemment, ça permet de donner un bol d'air aux entreprises qui n'ont pas pu encore reprendre leur activité et étaient très soucieuses de maintenir leurs salariés en situation d'emploi dans leurs effectifs. Ça permet en fait d'attendre le lancement des chantiers de reconstruction et l'arrivée des indemnités d'assurance. Après, je note toutefois que les entreprises attendent, ne serait-ce que pour le mois d'octobre, les arrêtés de la direction du travail qui tardent à renouveler le dispositif et ça cause de grosses difficultés sur le paiement des salaires. Donc nous lançons un appel au service de la Nouvelle-Calédonie pour accélérer les procédures de délivrance de ces arrêtés parce que sans cela, eh bien, nous sommes en incapacité de savoir le dispositif peut être actionné.
Le prolongement de 2 mois du dispositif de chômage partiel, c'est bien, mais c'est largement insuffisant, explique de son côté le vice-président de la COGETRA, Tony Dupré.
Ça prouve que l'État ne s'engage pas réellement sur ce sujet. On l'a dit à plusieurs reprises, il faut donner plus de visibilité aux entreprises. Sinon, elles licencient massivement. Donc, il faut à minima un engagement sur mi-2025. Si on pérennise le système, on l'a dit là aussi, s'il faut revoir la délibération, l'entreprise nous dit on a des difficultés avec des TEFP en termes de procédure. Il y aurait du retard, des fois 2-3 mois. Là, il faut voir ce qui se passe. Ensuite, des critères d'éligibilité, s'il faut les revoir, parce que là aussi, il y a peut-être un effet d'aubaine qui s'installe pour certains avec le côté confortable de la chose, on est prêt à en discuter. Mais d'une manière générale, globale, l'effort financier de l'État doit être à la hauteur des enjeux. Et là, c'est largement insuffisant.
Notez que le gouvernement souhaite soutenir et faciliter les démarches des entreprises. Les sociétés qui ont effectué des demandes de renouvellement pour les mois de septembre et octobre 2024 seront prolongées automatiquement sans démarche complémentaire. Le dispositif concerne près de 20 000 salariés en Nouvelle-Calédonie. Un nouveau président pour la CAFAT, Jean-Pierre Cabard, a pris la présidence tournante de la Caisse au titre du Collège des salariés. Il succède à Patrick Dupont, qui a terminé son mandat d'un an au titre du Collège des employeurs. C'est le seul changement, puisque l'ensemble du bureau a été renouvelé. Une continuité importante, surtout dans cette période compliquée, nous a dit le nouveau président Jean-Pierre Cabard.
Oui, évidemment, on se doute bien tous que c'est une année très très particulière, et puis ce qui se présente devant nous va être très compliqué. Alors, on est en ordre de bataille, tous au sein du bureau et au sein des administrateurs de la CAFAT, pour relever encore une fois ce défi-là. On espère qu'on prendra assez rapidement les décisions qu'il faut pour redresser la barre le plus rapidement possible et puis essayer surtout de redémarrer l'économie de la Calédonie.
Jean-Pierre Cabard qui a réagi à l'annonce du prolongement du dispositif de chômage partiel.
C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour les salariés, évidemment, mais c'est aussi une très bonne chose pour la CAFAT, puisque ça lui permet de maintenir un peu de ressources au niveau des cotisations et puis de ne pas écrouler les régimes encore plus que ça ne l'est aujourd'hui.
Jean-Pierre Cabard, le nouveau président du conseil d'administration de la CAFAT. L'actualité du nickel, Proniresources communique, l'usine du Sud fait un point sur la situation depuis le 13 mai qui a marqué l'arrêt de son activité à Goro, Jean-François.
Oui, l'industriel affirme rechercher des solutions viables pour redémarrer ses opérations dans des conditions sécuritaires durables. Elle rappelle que le principal défi reste la réparation de la ligne électrique qui a été endommagée le 4 juin à Saint-Louis. Enercal est actuellement en discussion avec les coutumiers pour organiser l'opération de remise en route en toute sécurité. À ce jour, aucune date n'a été actée. En attendant, Proniresources, Enercal et EEC ont travaillé à des solutions alternatives qui restent pour le moment au stade de l'étude. Proni affirme que le redémarrage de l'activité dépend de l'accès à l'électricité et à la sécurisation de la circulation. En ce qui concerne la recherche d'un repreneur, les discussions se poursuivent avec l'éventuel futur actionnaire.
L'État a versé une nouvelle tranche d'aide à la SLN. Paris a déboursé 20 millions d'euros, soit environ 2,4 milliards de francs. Le ministère de l'Économie a confirmé ce versement conformément au plan de soutien décidé au début d'année.
Christelle Bory, la PDG d'Eramet, rappelle que l'usine fonctionne aux 2/3 de sa capacité, que des mines sont arrêtées et que des équipements ont été détruits. Elle rappelle aussi qu'Eramet ne finance plus du tout la SLN depuis l'accord intervenu avec l'État qui lui a versé quelque 240 millions d'euros au total depuis le début de l'année, soit 29 milliards de francs. Au troisième trimestre de l'année, la production minière de nickel de la SLN a atteint 0,7 millions de tonnes, en baisse de 52% par rapport au troisième trimestre 2023. De juillet à septembre, les exportations de minerais de nickel de la SLN ont été quasi nulles et la production de ferro-nickel a reculé de 39%. Le chiffre d'affaires de la SLN a aussi chuté de 56% à 99 millions d'euros sur le trimestre.
Mais 18h01.
On part du côté de Koné tout de suite. La province Nord doit aussi s'adapter au contexte économique difficile. Réunis en séance publique ce matin à Koné, donc, les élus ont adopté une nouvelle décision modificative, la quatrième du budget principal. Écoutez, Nadège Fèvre, première vice-présidente de la province Nord.
Aujourd'hui, on a moins 6 milliards de recettes. Donc, on s'adapte au contexte pour pouvoir poursuivre notre mission auprès des populations et mettre en œuvre nos politiques publiques. Donc aujourd'hui, rien que sur l'investissement, c'était une économie de 1,2 milliard. Nous avions fait cet exercice-là sur le fonctionnement il y a 3 mois. Il nous a fallu puiser dans notre fonds de roulement. Donc on a un atterrissage. Là, aujourd'hui, on est à moins 6 milliards. On a peu de visibilité d'ici décembre, mais ça nous permet de tenir au moins cette année 2024. Donc oui, une situation compliquée, hein, tout le monde la traverse. Toutes institutions confondues, la province Nord aussi.
Les élus ont aussi souhaité s'associer aux efforts budgétaires en adoptant un texte pour réviser le système indemnitaire.
On a agi sur 2 volets à la demande de notre exécutif. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler la rémunération, donc c'est la loi organique qui la prévoit. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui relève des déplacements et des indemnisations diverses. Donc voilà, et pour le coup là, sur cette première mesure, c'est une économie entre 37 et 40 millions à l'année.
Les élus de la province Nord doivent maintenant préparer le budget 2025 et procéderont lors d'une prochaine assemblée de province au débat budgétaire. Un rendez-vous politique ce week-end. Le PALICA réunit une assemblée générale. Elle est destinée à préparer le congrès du parti qui aura lieu du 8 au 10 novembre à Calagomène. Il s'articulera autour de 3 chantiers, la sortie de la crise et la reconstruction via le PS2R, la reprise des discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et ce que le PALICA appelle le partage politique pour la réussite des objectifs à tous les niveaux. Cette assemblée générale du PALICA a lieu donc demain au foyer des îles Australes à Nouméa. 18h03. On marque une première page de publicité dans ce journal. On reviendra juste après, notamment sur le retour des croisières en Nouvelle-Calédonie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal est au fichu.
Oui, 4000 touristes attendus à Nouméa le 10 novembre. Les compagnies de croisière étrangères ont validé l'arrivée de plusieurs bateaux pour le mois à venir, Charlotte Coulson.
Les armateurs sont restés assez prudents. La reprise a commencé avec une 50aine de touristes à Lifou vendredi dernier. Puis les agences locales ont reçu les représentants des 2 plus importantes compagnies de croisière sur le territoire, Carnival et Royal Caribbean Cruise Line. Leur travail de terrain a porté ses fruits puisqu'ils ont finalement acté la reprise des croisières à Nouméa. C'est donc le Ovation of de 6 qui accostera d'ici 2 semaines. Une très bonne nouvelle pour les prestataires situés dans le Grand Nouméa. Fabrice Lecomte est l'un des gérants de la société Levi Transport. Après une perte d'exploitation de 98% depuis le 13 mai, ce sont près d'une trentaine de salariés qui vont enfin reprendre le travail. Fabrice Lecomte.
Pour nous, c'est une très bonne nouvelle que la Nouvelle-Calédonie soit de nouveau inscrite dans les escales. On sera prêt, toutes les équipes seront mobilisées. Alors les services touristiques qui sont mis en valeur, ce sont premièrement les bus qui vont en transfert toutes les 20 minutes en direction des plages parce qu'elles sont préservées, donc ce qui va permettre de ramener un peu des Australiens sur l'Anse-Vata et la baie des Citrons, redonner aussi du chiffre d'affaires pour les restaurateurs, les bars. Deuxième, ce sont les petits trains touristiques qui seront de présent. Nous avons aussi les tours guidés. Nouméa est prêt, on est heureux de les recevoir. On espère que la météo sera de la partie. Et l'équipe de Levi sera présente.
Et comme vous l'avez entendu, c'est une bonne nouvelle pour les prestataires touristiques, mais aussi pour les commerçants de la zone. Comme beaucoup, ils traversent une situation compliquée depuis le 13 mai. Ronan Délé est président du syndicat des commerçants.
La perte pour les commerçants depuis le début des émeutes est énorme. Elle est vraiment substantielle. Avant les émeutes, déjà, le commerce était en grande difficulté en Nouvelle-Calédonie par manque de personnes résidant ici, le marché étant très petit. Donc la croisière et la venue de touristes est toujours très bonne à prendre dès lors qu'on a une offre qui puisse les satisfaire. Une trentaine de commerçants sont associés justement pour proposer des remises spéciales aux croisiéristes, remises décidées par le commerce lui-même, et elles seront bien évidemment accessibles au retour des touristes de croisière dès le 10 novembre.
Et puis pour espérer une relance plus complète du secteur touristique, il faut attendre la reprise des lignes aériennes. Cela permettra de voir les touristes rester plus longtemps et ainsi faire marcher les hôtels et les autres prestataires plus éloignés de Nouméa. D'ici là, ce sont déjà 3 navires qui accosteront sur la Grande Terre au mois de novembre.
La mission d'information du Forum du Pacifique sera sur le territoire à partir de dimanche. Elle est composée de 5 personnes qui resteront en Calédonie jusqu'à mardi, Jean-François Bonnet.
Oui, mission composée du Premier ministre des Tonga, de celui des Fidji. Le Premier ministre des Salomon sera lui représenté par son ministre des Affaires étrangères. La délégation comprend également le secrétaire général du Forum. Ils arrivent tous les 4 dimanche après-midi et seront précédés par le Premier ministre des îles Cook, qui arrive lui dès demain. Cette mission d'information qui fait suite aux émeutes du 13 mai doit permettre à ses participants de mieux comprendre la situation en Calédonie, de soutenir les efforts des institutions, notamment de l'État et du gouvernement, et de fournir un rapport avec des recommandations claires à destination des dirigeants du Forum. Les membres de cette mission auront de nombreux rendez-vous. Les honneurs militaires leur seront rendus à leur arrivée à Tontouta dimanche à 10h. Ils se rendront ensuite au Medipol pour rencontrer le personnel de santé, puis à Kenuin rencontrer NC Eco. En début d'après-midi, ils auront un entretien au Haut-Commissariat avec le Haut-Commissaire et l'ambassadrice de France pour le Pacifique. Ils se rendront ensuite au Sénat coutumier, puis au Congrès. Lundi, les membres de la mission s'entretiendront tour à tour avec le président du gouvernement, puis avec le gouvernement collégial. Ils rencontreront ensuite Sonia Baquès, puis Jacques Lallier, avant de déjeuner avec la jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Enfin, mardi, dernier jour de leur mission, ils rencontreront tour à tour les autorités religieuses, le monde de l'enseignement, le comité Parole, Mémoire, Vérité, Réconciliation, les représentants des femmes. Ils termineront leur mission par une visite d'observation des dommages causés lors de la crise.
La population de Wallis et Futuna a diminué de 25% depuis 2003. C'est ce qu'indique l'INSEE. L'an dernier, l'archipel voisin comptait 11 151 habitants. La baisse a été moins massive à Wallis, moins 19,7% qu'à Futuna, moins 37,1%. L'émigration massive des jeunes combinée à une baisse de la natalité explique cette baisse de la population. L'INSEE constate aussi que la population de Wallis et Futuna vieillit et se féminise, faute de développement économique et d'établissement d'études supérieures. De nombreux jeunes quittent l'archipel vers la métropole ou bien la Nouvelle-Calédonie. À noter que 22 520 Wallisiens et Futuniens vivent en Calédonie, soit le double de la population qui reste sur place.
Des rats autour de chez vous? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal est au fichu.
Et oui, notre programme festif le week-end approche à grands pas et avec lui de nombreuses activités. Pourquoi pas découvrir le meilleur du savoir-faire calédonien réuni en un seul et même endroit. C'est le concept de cette 33e édition du salon Bat Expo qui a revisité sa formule pour proposer une plus grande diversité d'exposants, Charlotte.
Et cette année, le salon Bat Expo devient le salon Bat Expo et plus. La Chambre des métiers et de l'artisanat a fait le choix de proposer une gamme élargie d'artisans englobant non seulement le bâtiment mais aussi l'artisanat d'art et l'alimentaire. Du côté des exposants, ils s'adaptent au mieux à la situation. Certaines entreprises ont fait le choix de partager un stand, à l'image de Bruno, le gérant de Garden Kitchen.
On a trouvé des partenaires avec qui on a mutualisé les coûts et l'idée, c'était de faire un point commun avec une large gamme de produits qui part de l'équipement de la maison jusqu'à la cuisine intérieure et du coup aussi extérieure. Ça nous permet aussi d'élargir notre capacité à avoir du client. Chacun amène sa clientèle et on a une exposition plus forte. Et puis, au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit que bien souvent, les gens ne savent pas forcément tout faire. C'est normal, c'est pas leur métier. Ils ont un besoin. Donc on leur amène du conseil, du service et puis des contacts avec des opérateurs qui savent faire sur leurs besoins.
Le salon BAT Expo et Plus, c'est jusqu'à dimanche midi à la Maison des Artisans de Nouméa. Plus de 140 exposants sont présents, l'entrée est libre et gratuite.
Opération de solidarité avec la grande braderie des résidences autonomes de la Croix-Rouge demain à partir de 8h, ça se passe au Cerisier Bleu.
L'occasion de profiter des bonnes affaires lors de cet événement organisé en partenariat avec la recyclerie. Les précisions de Claire Masson, la directrice des résidences autonomes, les Cerisiers Bleus et les Orchidées.
On a 106 résidents aux cerisiers bleus et 86 aux orchidées.
Qu'est-ce qui leur sont proposés quand...
On propose des activités hebdomadaires, comme par exemple de la gym douce, de l'art-thérapie ou des ateliers mémoire. On propose également de façon régulière un loto, de la pétanque. On accompagne les résidents au cinéma. On a aussi des sorties véhiculées à raison de 2 sorties par semaine pour accompagner les résidents faire leurs courses.
Les fonds qui seront récoltés serviront à organiser quelque chose de spécial ?
Oui, on souhaite utiliser cet argent pour payer un orchestre pour notre fête de fin d'année et avoir un moment convivial avec les résidents. Parce que la musique, c'est toujours quelque chose de fédérateur qui fait passer un bon moment.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Le rendez-vous, c'est demain de 8h à 14h au Cerisier Bleu, 9 rue Luzien-Lauzac au Trianon.
La direction l'océan maintenant, vous pourrez découvrir l'univers du sauvetage en mer. Demain, la SNSM organise sa journée portes ouvertes au quai du musée maritime.
Un événement organisé à l'occasion des 20 ans de la station. Au programme de 8h à 16h, des visites de la vedette, un stand de vente de produits dérivés, des stands sécurité-prévention avec le COSNC et les affaires maritimes, un atelier secourisme et puis un stand de la Marine nationale.
On reste dans le lagon avec la fête de la mer organisée à Poya.
De nombreuses activités nautiques et terrestres seront proposées pour cette 3e édition, telles qu'une excursion à l'île aux Grimaud ou encore une initiation à la sculpture sur bois. Ça se passe demain au port de Népouy. Le programme complet est à retrouver sur la page Facebook de la ville de Poya.
Au Mont d'Or, c'est la journée solidaire des associations qui sera célébrée au complexe culturel et sportif Victorin Boeva à Boulari.
À travers cette action, la ville souhaite apporter son soutien aux associations sportives, culturelles et solidaires qui ont été très largement touchées par les exactions de mai 2024. Les explications de Valérie Bollot, adjointe au maire du Mont d'Or, en charge notamment de la culture.
Toutes les associations, quelles qu'elles soient, sont conviées. C'est un mix de la journée du sport et puis la fête du ukulélé. Donc il y aura des danses, il y aura de la musique, il y aura aussi des artisans. C'est surtout adressé aux familles pour qu'elles viennent se détendre un peu, retrouver un petit moment de plaisir après cette époque difficile. Et puis on espère que ça va être vraiment... parce qu'on s'oriente vers les fêtes de fin d'année, hein, puisqu'il faut quand même en parler, même si le contexte est compliqué. Donc c'est peut-être commencer à redonner un petit peu de dynamisme à la ville à travers son tissu associatif, sans lequel, c'est vrai, la ville ne peut pas vraiment fonctionner. Toutes ces associations ont été impactées par aussi les subventions qui ont été plus ou moins suspendues ou réduites pour certaines. C'est une façon de leur donner la main et de les aider.
La journée solidaire des associations, c'est de 9h à 15h demain. Le programme complet est disponible sur www.mont-dor.nc.
Et avis aux futurs lycéens, maintenant le lycée d'Ikukewe organise une matinée portes ouvertes de 8h à 11h. Ce sera demain l'occasion de découvrir l'établissement et ses filières, visites guidées, temps d'échange avec les enseignants et les élèves, présentation également des options. Et on reste du côté de Dumbéa. Halloween approche à grands pas, alors n'oubliez pas vos déguisements, Charlotte.
Et à cette occasion, les riders vont tout donner à la Big Up Jam Halloween, organisée par la Global Team au Big Up Spot, donc au parc de Coutio. Les inscriptions sont obligatoires pour les jams qui se déroulent à partir de 14h. Pour le reste du programme, l'entrée est libre et gratuite.
Et pour clôturer ce samedi, le spectacle Australiana sera présenté demain à 16h au Conservatoire de Musique. Renseignements et réservations, ça se fait sur itiquet.nc. Et nous, on termine le week-end avec un dimanche plutôt calme.
Une nouvelle brocante est organisée de 7h à 11h. C'est par la SPANC dans son refuge à Coutio. Le centre culturel Chibaou accueille quant à lui dans ses murs de 8h à midi le marché des femmes rurales. Et à cette occasion, la fête de la science proposera différentes animations avec notamment l'association Symbiose et son vaisseau des sciences qui seront installés à proximité du Grand Bagnan pour explorer la biodiversité.
Et après le festif place aux sportifs, on termine ce journal avec le programme des sports de ce week-end, 26 et 27 octobre. Et on parle football avec la 9e journée de Ligue 1, Jean-François.
Oui, une 9e journée qui démarrera demain matin à 5h45 avec Rennes qui recevra le Havre. Ensuite, à 2h dans la nuit de samedi à dimanche, duel de mal classé entre Angers et Saint-Etienne. À 4h, Brest qui brille en Ligue des Champions ira à Rennes. Enfin, premier derby de cette journée à suivre dès 6h dimanche matin, Lens accueillera Lille. Dans la nuit de dimanche à lundi, Lyon recevra Auxerre. On suivra aussi deux autres derbies, Toulouse-Montpellier et Nice-Monaco. Les Canaries nantais d'Antoine Comboiré joueront, eux, sur la pelouse de Strasbourg. Et enfin, pour clôturer cette 9e journée, lundi matin à 6h45, un classico entre l'Olympique de Marseille et le PSG.
Et un classico peut en cacher un autre. On parle toujours football, mais en Espagne, cette fois.
Avec dimanche matin à 6h, le Real de Madrid qui recevra le FC Barcelone. Au classement, les Catalans possèdent 3 points d'avance sur les Madrilènes en cas de victoire. Kylian Mbappé et ses coéquipiers reviendraient donc à égalité de points en tête de la Liga. A noter qu'en Angleterre, on aura aussi le droit à un choc de haut de tableau entre Liverpool, leader de la Première Ligue, qui se déplace sur la pelouse des Gunners d'Arsenal, 3e au classement. Rendez-vous à 3h30 dans la nuit de dimanche à lundi.
On retourne en métropole et on parle de rugby, cette fois avec la 8e journée de Top 14 ce week-end.
Et en ouverture, l'UBB qui a perdu le week-end dernier contre le Stade Rochelais recevra la section paloise. Coup d'envoi de la rencontre demain soir à 23h30. La Rochelle, de son côté, ira jouer à Montpellier à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Trois autres matchs sont programmés à la même heure. Lyon, Aviron Bayonnais, Racing 92, Perpignan et Vannes, Castres Olympique. Dimanche matin, le Stade Français accueillera Clermont. Et pour Morgan Parra, ancien Clermontois qui évolue désormais dans le staff du Stade Français, il faut vite reprendre confiance après un début de saison très compliqué.
Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a plusieurs points où c'est un peu compliqué maintenant de confiance, bien sûr. Je pense qu'il y a des coups qu'on ne finit pas, qu'on doit finir. Et avec un peu plus de confiance, je pense que ça irait au bout. Et on sait qu'on va vite dans une sinistrose quand on est à cette place et que ça peut aller très vite. Donc essayer de reprendre un peu de joie, d'être sur le terrain, du plaisir. Essayer de communiquer ça. Et ensuite, après, voilà, ce week-end, c'est tout. De faire le boulot.
La 8e journée de Top 14 se terminera lundi matin avec un match Stade Toulousain, qui est évidemment leader, contre Toulon.
Un mot de basket pour signaler que ça y est, la NBA est de retour.
Et la deuxième saison du rookie de l'année, Victor Wembanyama avec les Spurs de San Antonio. Ce ne sera pas le seul Français cette saison en NBA puisqu'on retrouvera les numéros 1, 2 et 6 de la dernière draft ou encore l'expérimenté Gerson Yabusele. On se souvient évidemment de son dunk exceptionnel sur la légende LeBron James. C'était en finale des Jeux Olympiques cet été.
Du tennis à suivre ce week-end avec le tournoi de Bâle en Suisse. Deux Français sont qualifiés pour les quarts de finale.
Ce soir aux alentours de 23h, Arthur Fils affrontera le grec Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 3 du tournoi. Giovanni Mpechi-Pericard sera lui opposé au Canadien Denis Shapovalov. Les deux Français qui ne sont pas dans la même partie de tableau pourraient donc se rencontrer en finale seulement.
Et on passe du tennis au tennis de table. Les frères Lebrun participent au WTT Champions de Montpellier.
Félix, le cadet, est déjà qualifié pour les quarts de finale. Il attend désormais son aîné, Alexis, qui affrontera la nuit prochaine le Suédois Truls Moregard. On rappelle qu'Alexis Lebrun a été sacré champion la semaine dernière, champion d'Europe de tennis de table en simple, mais aussi en double avec son frère.
Et on passe maintenant au sport mécanique avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 donc et les pilotes qui sont au Mexique ce week-end.
Oui, à Mexico où la lutte pour le championnat pilote et constructeur se poursuit. On aura très certainement le droit à une lutte entre les trois Ferrari, les McLaren et les Red Bull. Et côté français, Esteban Ocon bénéficie lui d'une nouvelle voiture chez Alpine. Il a hâte de la tester.
Normalement, on aura toutes les nouvelles pièces sur la voiture. L'équipe a aussi monté une voiture en plus, donc on aura aussi des pièces de rechange au cas où il se passe quelque chose. Donc on aura un set de rechange pour moi et Pierre au cas où. Donc voilà, j'ai hâte de tester cette nouvelle voiture, voir comment elle se comporte, où sont les différences comparées plus tôt dans la saison. Et puis avec tous les challenges qui se montrent sur cette piste, il y a toujours peu de grip au début du week-end. C'est toujours difficile de monter sur les vibreurs. On va essayer de tout mettre dans l'ordre pour arriver prêt en qualif.
Le départ du Grand Prix du Mexique sera donné lundi matin à 7h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, toujours en sport mécanique, il y a le Grand Prix de moto de Thaïlande également.
Oui, on arrive dans la tournée pacifique de fin de saison et pour cette 18e des 20 courses au programme du championnat de MotoGP, les pilotes seront sur le circuit de Burinam. Au classement général, rien n'est encore fait. Jorge Martin possède 20 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Rendez-vous demain à 19h pour la course sprint et dimanche à la même heure pour la course reine.
On parle de nos Calédoniens maintenant, Phoebe Rocher et Antoine Olivier qui brillent en métropole.
Les Calédoniens ont été sacrés ces derniers jours champions et championnes de France junior de kitesurf et freestyle. Des championnats de France qui ont lieu jusqu'à la fin du week-end à Le Cat. Écoutez Antoine Olivier.
Ça y est, je viens tout juste de sortir de l'eau. C'est bon, champion de France. Ça fait super plaisir. Conditions, elles étaient vraiment compliquées parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de vent. C'était un peu irrégulier. Et voilà, je suis très content. Ça fait plaisir. Deuxième titre de champion de France. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà.
Antoine Olivier et Phoebe Rocher sont désormais engagés dans la catégorie Open et pourraient tous les deux réaliser le doublé.
On en vient au programme sportif du week-end, mais sur le territoire, la sélection A de football qui reprend ses matchs amicaux.
Dimanche à 13h, les joueurs de Johan Sidaner seront opposés au club athlétique de Saint-Louis, un match amical qui se jouera à huis clos au stade du Madelet. On rappelle que les Cagous se préparent pour la suite des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Ils affronteront les îles Salomon le 14 novembre et les Fidji le 17 novembre.
On part faire un tour sur l'eau avec du Vaha, le championnat de Calédonie V6 longue distance demain à Lens-Vatin.
À 10h, la course dames s'élancera sur un parcours de 18 km. Dans la foulée, ce sera aux hommes de partir sur un parcours de 24 km. Parcours qui emmènera les rameurs autour des îles aux Sainte-Marie et Canards.
Du tennis, le TC Mancofin en fête ce week-end avec plusieurs tournois du tennis mais aussi du paddle.
Le club organise ses tournois multichances en tennis pour les enfants de 8 à 12 ans, mais aussi pour les adultes, avec un tournoi dames et deux tournois hommes selon les niveaux. En padel, rendez-vous aussi pour les meilleurs joueurs du territoire avec un P250 femmes et un P500 hommes.
A noter qu'en tennis de table, il y aura ce week-end les championnats territoriaux Open et vétérans à la salle Noyant de Nouméa. Et on continue de parler sport de raquette avec du badminton qui reprend doucement ses droits.
Oui, après 5 mois difficiles, demain aura lieu le championnat de la province sud de simples jeunes et adultes. Il a lieu à la salle d'Auteuil de Dumbéa. 91 joueurs seront sur les courts pour un total de 153 matchs. Le début des rencontres à 8h et les finales se joueront vers 16h.
Et on reste du côté de Dumbéa pour terminer cet agenda sportif du week-end avec du rugby.
Oui, pour les 15 ans du club de Dumbéa, l'URCD organise le jour de rugby. Ça se passe sur le terrain Rocky Waitanaki. Rendez-vous de 9h à 13h pour les catégories jeunes des moins de 8 ans, au moins de 19 ans.
Merci Jean-François pour ce programme sportif du week-end. Et on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors, cette nuit, nuages et averses seront au programme au Loyautey et sur l'Est. Ailleurs, les nuages issus du relief s'évacueront lentement en donnant des ondées sur la côte ouest avant l'arrivée de nombreux nuages élevés par le nord. Vent de 5 à 10 nœuds de nord au Loyautey et d'ouest à nord-ouest sur le sud. Ailleurs, il sera variable faible, s'établissant sur l'extrême nord en fin de nuit entre 5 et 10 nœuds de sud. Les températures de la nuit stagneront, souvent entre 19 et 23 degrés. Demain matin, les averses persisteront sur le sud des Loyautés. Ailleurs, le temps sera sec et le soleil souvent voilé par des nuages élevés. Le vent sera généralement variable faible au Loyautés. Il s'établira entre 5 et 10 nœuds de nord à nord-est sur la côte est et de sud à sud-est ailleurs.
Merci Nicolas pour ce point complet sur la météo. Et c'est donc la fin de ce journal.